Voilà, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3. C'est l'émission Les Oreilles Loin du Front qui commence. Alors, ce soir, on entendra dans le dossier de cette émission la suite de la rencontre qui avait lieu au Festival Origine Contrôlée à Toulouse le 11 novembre dernier avec Françoise Vergès, autour notamment d'Aimé Césaire. Et dans la première partie de l'émission, bien sûr, un petit peu d'agenda et une chouette chronique de Aude autour d'une expo photo qui s'appelle Controverse. Thank you. Voilà, vous êtes avec Salif Keïta sur Fréquence Paris Pluriel et vous écoutez Les Oreilles Loin du Front. Alors Alex, un petit point au niveau des dates et de l'agenda. La Palestine crève l'écran.
Oui, c'est un festival de cinéma donc qui démarre ce soir, enfin qui a démarré cet après-midi et jusqu'au 31 mars. Un festival qui se tient donc à Nanterre au cinéma Les Lumières. Et donc une programmation très riche et vachement intéressante avec donc des films et des débats. Alors par exemple, ce soir à 20h15, vous aurez le film Couvre-feu de Rachid Macharaoui, un film palestinien de 1994 qui raconte une journée de siège à Gaza. Il y aura également, donc toujours ce soir, un débat avec Rachid Khalidi, médecin, qui est un médecin et qui a fait des missions à Gaza donc, et qui parlera de son expérience. Demain jeudi 26 mars, vous aurez par exemple « Enquête de Palestine » à 18h30, un documentaire de Édouard Saïd, qui est décédé depuis quelques temps et qui était... palestinien résident aux États-Unis, palestinien des USA, et qui a réalisé ce film en 1998. Et il raconte, c'est lui qui a théorisé notamment la question de l'orientalisme. Et ce film raconte quand il revient au pays natal avec son fils, 50 ans après le départ de sa famille vers les États-Unis. Et il analyse donc le conflit du point de vue d'un Palestinien. Ensuite, toujours demain, jeudi 26 à 20h, il y aura le film de fiction Intervention divine de Elia Souleyman, très beau film qui date de 2002. Et la soirée sera suivie d'un débat avec Daniel Ben Saïd, René Galissot, Youssef Boussouma et Eric Azan. Vendredi 27, il y aura à 16h Le sel de la mer, qui est une fiction de Anne-Marie Jasser, une fiction de 2008, un film qui a été sorti récemment, qui raconte le retour d'une Palestinienne du Liban qui retourne en Palestine et qui suit un peu les traces de sa famille et qui essaie de retrouver la maison de familiale. Voilà. Ensuite, à 18h30, il y aura le film Redacted de Brian De Palma, un film produit aux États-Unis et en Irak, qui date de 2007. Et le film donc se concentre sur un petit groupe de soldats américains en garnison à un poste de contrôle en Irak. Donc c'est la succession de points de vue différents qui permet de confronter l'expérience de ces jeunes hommes sous pression, de journalistes et de collaborateurs des médias avec celle de la communauté irakienne locale afin de faire la lumière sur les conséquences désastreuses du conflit et leurs rencontres fortuites que chacun ont eues autour d'eux. Voilà, donc ensuite à 20h40, Après la guerre, c'est toujours la guerre, un documentaire de Samir Abdallah qui date de 2008. C'est un carnet de route tourné au Liban pendant et après la guerre de l'été 2006. Et puis la soirée sera clôturée par un débat avec Nala Chahal et Richard Labévière. Voilà, samedi 28 à 14h, vous aurez Valse avec Bachir. À 16h30, de nouveau Redacted de Brian De Palma. À 18h30, L'Unconfiscation Order numéro 6-24D. C'est un court-métrage documentaire de Larissa Sansour qui a été produit en Palestine en 2007. Et ça raconte... l'auteur avait reçu un ordre de confiscation de sa maison pour la construction du mur sur les terres de sa famille. Voilà, vous aurez également Le Jardin de Jade, documentaire de Georgi Lazarevski, France-Palestine, donc 2007. Qui raconte dans les faubourgs de Jérusalem, un hospice de vieillards voit le mur de séparation israélien s'élever à sa porte, donc autour du mur. À 20h30, il y aura un court-métrage en avant-première qui s'intitule « Info avec coupure publicitaire ». C'est un court-métrage de fiction de Olfat Osman, qui est un film égyptien de 2008. Et en fait, c'est un court-métrage qui mêle fiction, images de souffrance subies par les peuples arabes en Palestine, Irak, Liban, Égypte, et les pubs bourrage de crâne mercantile. Donc un film assez atypique apparemment. Ensuite, vous aurez notamment Gazastrophe, le jour d'après, pareil, en avant-première. C'est un documentaire de Samir Abdallah et Khaledin Mabrouk, donc, qui vient d'être produit, qui vient d'être terminé. Donc, c'est un retour de Gaza, justement, pendant le conflit, ils étaient là-bas. Pendant les bombardements, la guerre à Gaza, la dernière guerre. Donc, la soirée sera clôturée par un débat avec Omar Soumi, Fernand Tuile, Bernard Ravenel, Nala Chahal, Michel Siboni, Youssef Boussouma, et sera donc animé par Brahim Senoussi. Et il y aura également une rencontre avec une trentaine de Palestiniens de plusieurs camps de réfugiés qui ont été invités en France par l'association des villes jumelées France-Palestine. Voilà, donc là, le programme se poursuit donc jusqu'au 31 mars à Nanterre, au cinéma Les Lumières. Les places sont à 4,90€, c'est fort peu cher. Et donc pour plus d'informations et pour avoir le programme complet, vous pouvez aller sur le site www.cinemathèque.com, sans accent, ou bien sur le site de la ville de Nanterre également. Et puis, donc, le cinéma Les Lumières, ça se situe au 49 rue Maurice Thorez à Nanterre, au RER Nanterreville.
Voilà, vous savez tout sur la Palestine crève l'écran. Alors finalement, de l'occupation du territoire à la colonisation, il n'y a qu'un pas. Alex, qu'est-ce que c'est que ces mots, la colonisation ?
Oui, en fait, c'est le titre d'une rencontre qui est organisée en collaboration avec la CELEFA. La CELEFA, c'est la Société d'études lexicographiques et étymologiques françaises et arabes. Et ce sera une rencontre avec Alain Russio, qui est historien, donc autour des mots de la colonisation, c'est-à-dire... La colonisation donc française notamment, nous a légué des mots empruntés aux langues africaines, aux vietnamiens, à l'arabe. Et donc ces mots en disent long sur la manière dévalorisante, dont étaient vus les peuples colonisés et leur culture. Mais certains termes ont subsisté et portent encore aujourd'hui la marque de ce regard dépréciatif. Une rencontre qui s'annonce particulièrement intéressante. Elle aura lieu vendredi 27 mars à 19h30 à la librairie Ishtar. Librairie Ishtar qui se situe au 10 rue du Cardinal Lemoine, métro Cardinal Lemoine ou Jussieu, donc dans le 5e à Paris.
Et pour ceux qui ne le savent pas, le mois de mars, c'est le mois contre la Franc-Afrique.
La France-Afrique.
France-Afrique, oui.
Ouais, c'est une initiative de l'association Survie. Moi contre la France-Afrique, donc ça a démarré le 15 mars et ça se poursuit jusqu'au 15 avril. Alors, quelques dates. Jeudi 26, donc demain à 19h, il y aura un débat organisé par Survie et le CD Team et le site Libération Afrique. Et le thème, un nouveau cycle de lutte sociale et politique en Afrique subsaharienne, assurer des élections transparentes. Ça se passera donc jeudi 26 mars à 19h au CICP, 21 Terre rue Voltaire dans le 11e, à métro rue des Boulets. Samedi 28 mars à 15h, il y aura donc une discussion autour des Comores. Donc Comores, journée carton rouge à la France. Et puis également une manifestation contre la France-Afrique. Donc, c'est pas un débat, c'est tous les deux, c'est une un rassemblement et manifestation. Donc rassemblement à 15h au Trocadéro, donc avec le collectif des associations et amis des Comores. Et puis à 16h, manifestation contre la France-Afrique pendant le voyage de Sarkozy en Afrique, n'est-ce pas ? Voilà, pour les prochaines dates, pour plus d'informations, vous pouvez écouter sur cette antenne l'émission Paris-France-Afrique, l'émission de survie et des luttes contre la France-Afrique. Donc elle est diffusée chaque lundi sur Fréquence Paris Pluriel de 17h30 à 19h. Et puis sinon, plus d'informations sur le site de survie au www.survie-paris.org.
وكي غاب الدغيد السبري ذي سور يتساوي وكي غاب الدغيد السبري ذي سور يتساوي وسن الشاف وبارتي وسن الشاف وبارتي قلسي استزقاثا ذكلي
بريدي صور يتساوير وقي غادا تغيد السبريدي صور يتساوير ويستلاذ هذا خوني ويستلاذ هذا خوني أفيل سيسيز قاربي أفيل سيسيز قاربي وقي غادا تغيد السبريدي صور يتساوير وقي غادا تغيد السبريدي صور يتساوير مدوي صربعا دا بحري مدوي صربعا دا بحري دك مين سيزقا وسبسي دك مين سيزقا وسبسي أقلينا تغيد السبريدي سياد رقي الليل أقلينا تغيد السبريدي سياد رقي الليل يرني خدام شناوي يرني خدام شناوي ذكول استزقى ثيري ذكول استزقى ثيري أقلينا تغيد السبريدي ناسين الليل أقلينا أقلينا تغيير السبريدي ناسين الليل أقلينا تغيير السبريدي ناسين الليل أقلينا تغيير السبريدي ناسين الليل أقلينا تغيير السبريدي ناسين الليل
Voilà, toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, Les Oreilles Loin du Front, et on vient d'entendre un extrait du dernier album de Cheikh Sidi Bémol, donc, qui nous a concocté des reprises de chants de marins kabyles. Joli CD, voilà. On reprend l'agenda.
Alors, Alex, en ces temps de contestation, il y a quand même une question qui se pose et qui peut effleurer les lèvres. Est-ce qu'on va faire comme aux Antilles ?
Alors oui, c'est la question qui est posée par notamment Alternative Libertaire et qui propose donc un débat autour de ce qui s'est passé aux Antilles, notamment, et pas seulement aux Antilles, hein, dans l'océan Indien, puisque à La Réunion ça continue, en Martinique la victoire est proche, et en Guadeloupe, après 6 semaines de grève générale, donc les travailleurs et travailleuses de Guadeloupe, soutenus par la majorité de la population, ont donc imposé au patronat et à l'État français leur programme de 120 revendications qui touchent tous les aspects de la vie quotidienne, notamment le gel des loyers pour 2009, la baisse des prix, la création de postes d'enseignants, 200 euros d'augmentation pour les bas salaires, etc. Bon, après, il faut voir comment vont être appliqués ces accords. Hein. Ils restent vigilants et ça, il n'y a pas de souci. Bon, le gouvernement a proposé des états généraux pour la Guadeloupe. Bon, on sait ce que ça peut vouloir dire, c'est-à-dire pas grand-chose. Hein. On connaît les états généraux de l'écologie, enfin ce genre de grands raouts qui sont là pour faire bonne figure mais qui ne mènent à rien. Donc, enfin en tout cas, on fait confiance aux organisations politiques et aux syndicats là-bas pour rester vigilants, et notamment l'organisation LKP qui était en première ligne donc de cette grève et de cette lutte. Et voilà donc la question qui est posée par Alternative Libertaire, et c'est et dans l'Hexagone, quand est-ce qu'on fait la même chose, quand est-ce que on s'unit, sur quelles revendications on peut se rassembler, et comment lutter, comment s'organiser pour gagner. Donc cette rencontre, ce débat aura lieu samedi 28 mars à 19h30. Il y aura Marie O. Palacio d'Alternative Libertaire, Alain Pojolat pour le nouveau parti anticapitaliste, Christian Bayeux de Solidaire, Stéphane Ferry de la CGT RATP, et puis un militant de la CNT, pour l'instant on n'a pas de nom, voilà, qui interviendront pour débattre et discuter de ça avec nous. Donc samedi 28 mars à 19h30 à l'AGK c'est au 177 rue de Charonne, métro Alexandre Dumas.
Et toujours dans la même lignée, il y a quand même une rencontre aussi qui s'organise pour donc parler de la crise dans les DOM, les départements d'outre-mer.
Oui, j'ai vu cette initiative qui va faire un lien en fait avec le dossier de cette émission, puisque la personne qui est invitée c'est Françoise Vergès. Françoise Vergès, hein, qui est spécialiste de l'histoire de l'esclavage, des théories politiques en post-colonie et des phénomènes de créolisation, qui donc interviendra dans cette rencontre autour de la crise dans les départements d'outre-mer, et qui donc évoquera la situation politique aux Antilles et à la Réunion. Cette rencontre est organisée par l'hebdomadaire Politis et la librairie La Friche, et ça aura lieu donc jeudi 2 avril à 19h, et ça se passera à la librairie La Friche. La librairie La Friche, c'est au 36 rue Léon Frot, métro Charonne, dans le 11e.
Et on termine l'agenda, Alex, avec les 9e Big Brother Awards.
Oui, les Big Brother Awards, c'est le thème n'est absolument pas joyeux, c'est les remises des prix qui sanctionnent toutes les initiatives visant à nous surveiller encore plus, visant à accroître la surveillance généralisée, donc d'où le nom de Big Brother Award. Et l'édition 2009 aura lieu le samedi 4 avril. Alors le programme définitif n'est pas encore communiqué, mais comme chaque année, en fait, on peut participer, notamment en leur communiquant, en leur faisant suivre des informations par rapport à la surveillance, soit dont on a été victime, soit on peut proposer donc des nominés pour le palmarès des Big Brother Awards. Donc pour plus d'informations et notamment pour savoir comment participer à ces propositions, on peut aller sur le site donc bigbrotherawards.eu.org, et puis donc notez tout de suite dans votre agenda que la soirée de remise des prix aura lieu donc le samedi 4 avril à la Parole Errante à Montreuil. C'est au 9 rue François de Berg, donc à Montreuil, c'est pas loin du métro Croix de Chavaux, et pour l'instant à partir de 19h.
Tombe sur nos contrées, le soleil est bas, les arbres ont maigri, on voit apparaître au-dessus des fenêtres une marionnette rouge à barbe d'ancêtre. Les gamins d'Occident, s'ils ont été gentils, auront plein de cadeaux. Mais ce personnage qui paraît tendre, où est-il de janvier à décembre? Toute l'année, il fait fabriquer ses cadeaux par des ouvriers de 10 ans en entrepôt, qui pour faire ce qui finira sous le sapin n'iront jamais à l'école et ne liront rien pour s'accaparer. Le Père Noël entretient la corruption et la misère dans ses anciennes colonies, où il a toujours les meilleurs prix. Le pétrole qui fait ce qu'il plastifie finit des fois dans la mer sans qu'on s'en méfie. Et quand il sert à livrer les joujoux par milliers, il dérègle le climat du globe. On dit qu'il passe par tous les toits, mais dommage qu'au Burundi y ait pas de cheminée. Si tu vois le Père Noël, mets-lui des coups de semelle. Lui décale votre vie, manger sa poste par mes gorges sirènes. Préviens cette esco qu'il est bon pour la GN. Si tu vois le Père Noël, mets-lui des coups de semelle. Foule dans sa hotte et mets-lui décale votre vie, manger sa poste par mes gorges sirènes. Le Père Noël distribue les boîtes de chocolat, les tranches de saumon, les blocs de foie gras. Se perpètent les panses des porcs à perfettes qui rient comme des morts et appellent ça les fêtes. En novembre, il vend des figurines de G.I., des tanks et des canons pour la marmaille. L'arsenal se collectionne, les parents qui triment auront-ils la maille? Voici décembre, c'est parti, les Barbies descendent en rappel dans les caddies. Blonde squelettique ne pensant qu'aux 4-4 de Ken. Et ces jeux vidéo qui tombent de la haute donnent-ils aux ados le sens de la lutte? Génération vertueuse en virtuel aura-t-elle fait le bien dans le monde réel?
On ramasse des cadavres chaque matin en Inde et
mais lui des coups de semelle. Foule dans sa hotte, mais lui des calbottes. Fais lui manger sa fausse barbe, égorger ses reines. C'est le pervers Noël et sa supercherie vénale. Te fait super marcher dans tes hypermarchés. Je le croyais polyglotte et tu es complètement bête. Pour ne pas pouvoir répondre à toutes les lettres et les requêtes, je croirais bien plutôt qu'il préfère les chiffres aux lettres, les riches aux prêtres. Et le verbe avoir au verbe être, on a fait irréprochable, cherche un personnage impeccable avec sentiment charita pour mascara dentiste de fable de Saint-Nicolas. Si tu vois le Père Noël, mets-lui des coups de semelle. Foule dans sa hotte et mets-lui des calvottes. Manger sa fausse barbe, égorger ses reines. Très bien, c'est des scouts qu'il est bon pour la GN. Foule dans sa hotte, mets-lui des calvottes. Fais-lui manger sa force, barbe, égorger ses reines.
Voilà, c'était Duval MC, c'est pas du tout de saison, mais pourquoi pas. Donc Aude, tu es allée voir une exposition photographique qui s'appelle Controverse.
Oui, Controverse ou Photographie à Histoire. Au vu du titre, on pourrait penser qu'une telle exposition cherche à flatter le tout à chacun, avide de petites histoires, d'anecdotes croustillantes à se mettre sous la dent, de clichés sensationnels pris par les plus audacieux des paparazzi, et qui ne s'est jamais surpris à prendre plaisir à tourner les pages d'un gala ou d'un Paris Match dans la salle d'attente d'un dentiste. Or, l'exposition présentée par l'historien de l'art David Girardin et l'avocat Christian Pirker à la BnF de Richelieu va bien au-delà du simple sensationnel. En proposant près de 80 clichés, de 1840 à nos jours, clichés tous pris dans la tourmente d'une controverse, d'une polémique, parfois au cours de procès retentissants, se dessine une véritable histoire juridique et éthique de la photographie qui, tout en questionnant le statut du médium photographique, en dit long sur la perception que les sociétés et les cultures ont des images de leur temps. Les polémiques que suscitent les photographies sont en effet le moyen de poser de véritables questions de société, questions graves parfois, comme celle par exemple de la pédophilie. En effet, jusqu'où peut-on aller dans la représentation du corps, en particulier de celui de l'enfant ? À ce titre, les portraits ambigus que Lewis Carroll a fait de la petite fille qui lui a inspiré Alice au Pays des Merveilles sont assez troublants et soulèvent cette question, bien qu'il n'ait jamais été interdit ni censuré à l'époque victorienne. Représentation des corps enfantins, mais aussi des corps morts, tel celui de Bismarck sur son lit de mort en 1898 qui a fait scandale. Effectivement, c'est ce genre de photographie très crue qui fait scandale en répondant finalement moins à une exigence documentaire qu'à un voyeurisme et à la recherche du sensationnel intéressé. Si la photographie a de tout temps suscité la polémique, c'est qu'il s'agit d'un médium qui tire son pouvoir de la particularité qu'il a d'authentifier le réel. Or, c'est précisément ce pouvoir documentaire de l'image photographique qui la rend d'autant plus sujette aux enjeux politiques et idéologiques. En effet, contrôler la production d'images, fabriquer les images en déployant un art de la mise en scène ou en ayant recours à la retouche et aux manipulations, c'est faire de la photographie l'auxiliaire par excellence du pouvoir politique et de la propagande. En est symptomatique, par exemple, le soin qu'a pris le photographe soviétique Evgeny Kaldei de retoucher une image qu'il a fabriquée et mise en scène à l'occasion de la prise de Reichstag par l'armée rouge le 2 mai 1945. Ce 2 mai 1945, le photographe est présent lors de la prise du Reichstag, il monte sur le Reichstag qui est en feu et il demande à un soldat de venir sur le toit avec un drapeau afin d'immortaliser cet instant. Et comme ce soldat se trouve dans une posture dangereuse, il est très très près du vide, il est retenu, c'est assez discret mais on le voit bien sur la photographie, il est retenu par un officier dont on voit les bras. S'il n'y a a priori rien d'étonnant à constater que l'officier porte une montre au bras droit, il est davantage de le voir qu'il en porte une seconde au bras gauche, un détail qui disparaît de l'image finale. En effet, Evgeny Kaldei s'est attaché à retoucher son cliché final afin de supprimer une des deux montres, éliminant ainsi la preuve du pillage auquel se livrait l'armée russe. Retoucher l'image, en fait on le voit bien, c'est pour le faire à des fins de propagande, mais aussi de réécriture de l'histoire, tel ce militant soviétique qui se trouve littéralement effacé des clichés photographiques, notamment ceux qui le montraient aux côtés de Staline, après son assassinat par le régime soviétique. Sujette à de telles manipulations, et d'autant plus à l'ère numérique, des manipulations plus ou moins anodines, comme récemment la cigarette que l'on a supprimé des doigts de Sartre sur la photographie utilisée pour l'affiche d'une expo, la photographie entre aujourd'hui dans ce qu'on pourrait appeler l'ère du soupçon, à tel point qu'on se demande aujourd'hui si l'on a réellement marché sur la Lune ou bien si les photographies de la NASA ne sont pas plutôt la mise en scène faite par Stanley Kubrick lui-même, dont le film 2001, l'Odyssée de l'espace, est contemporain de l'événement. Je vous laisse réfléchir sur cette question. Pour autant, la photographie garde une force indéniable et incontestable, avec des images marquant les esprits, comme celle qui a fait le tour du monde, de la petite fille hurlant brûlée au napalm, qui symbolise la guerre du Vietnam, et des photographies qui éveillent les consciences. Récemment, ce sont les photographies des tortures infligées aux Irakiens qui ont fait prendre conscience de l'ampleur de l'horreur. Dans un monde comme le nôtre, saturé par les images, Controverse apparaît comme une exposition essentielle qui nous ramène à l'essence de la photographie et qui, plus largement, interroge notre propre perception des images. Pour éviter de se laisser subjuguer par l'image sans voir les manipulations qu'il peut y avoir derrière, ou du moins pour garder une certaine vigilance et pour continuer à s'interroger sur l'utilisation des images dans notre société, rien de tel finalement que les mots, que les discours argumentés, c'est-à-dire étymologiquement, les controverses. Et à ce titre, l'exposition Controverse Photographie à Histoire est une exposition stimulante à consommer sans modération jusqu'au 24 mai 2009. Et pour poursuivre la réflexion, rendez-vous le 15 mai pour une table ronde avec les commissaires de l'exposition de 14h à 18h, entrée libre au site Richelieu.
Thank you.
toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, les oreilles loin du front, et on va donc démarrer le dossier de cette émission. En fait, c'est la deuxième partie de ce qu'on vous a diffusé la semaine dernière, c'est-à-dire des extraits d'une rencontre qui a eu lieu le 11 novembre 2008 au cours du festival Origine Contrôlée à Toulouse, un festival organisé par le Tactique Collectif. Et c'était donc une rencontre avec Françoise Vergès autour d'Aimé Césaire. Et avant de reprendre en fait le fil de cette rencontre, on entendra d'ailleurs cette semaine, enfin tout de suite, la suite de la rencontre, c'est-à-dire plutôt l'échange avec le public, entre autres. Mais avant de reprendre le fil de cette rencontre, on va entendre un extrait d'une émission qui a été coproduite par l'INA et le CNRS, qui était consacrée à Aimé Césaire et qui date de 1977. Donc on va entendre là tout de suite Léopold Sédar Senghor qui dialogue avec Aimé Césaire autour du concept de négritude.
Et je pense que Césaire a donc bien fait d'employer le mot de négritude, car s'agissant de nègres, nous sommes des hommes vivants, des hommes concrets. Donc la négritude, c'est d'une façon générale l'ensemble des qualités, des vertus du monde noir, des valeurs comme on dit aujourd'hui.
Je crois que le président a absolument raison quand il parle de la situation concrète du noir. Il est clair qu'il y a des différences entre l'approche africaine et l'approche antillaise de la négritude. Et comment en être surpris? C'est que les situations historiques et sociologiques et politiques dans lesquelles nous sommes sont extrêmement différentes. Par exemple, il est clair qu'ici, nous sommes dans le concret, incontestablement. Nous sommes aux prises avec des difficultés immédiates, concrètes. Je crois qu'à l'heure actuelle, pour nous, il s'agit de peuples qui sont à la limite de l'asphyxie. Et vous connaissez le background, l'arrière-plan historique de ce pays, des Antillais. Quand nous disons négritude, nous insistons tout particulièrement sur la notion d'identité. Et enfin, c'est pour nous l'affirmation d'une solidarité, parce que nous voulons le rassemblement, la fraternité de tous les peuples noirs et qu'ils puissent former une communauté vivante. Alors qu'à l'heure actuelle, nous assistons à un compartimentage qui nous paraît extrêmement préjudiciable, et aux uns et aux autres.
Pour Césaire, la négritude, c'est quelque chose d'actif. Il ne faut pas être agi, il faut agir. Les Allemands disent que la négritude, c'est le Negersein. Le Negersein, mais un nègre actif, ce n'est pas un Dasein, c'est un Sein actif. Césaire a tout mis dans un seul mot, le mot négritude, qu'il a employé comme un marteau-pilon. Et c'est la raison pour laquelle, jusqu'ici, j'ai été très prudent.
Je crois que c'est une grande chose, c'est une notion importante, que celle qui permettra à un Sénégalais, à un Dahoméen, à un Malien ou un Congolais de s'asseoir autour d'une même table et de se sentir comme les membres d'une même famille. Eh bien, c'est la conception de la négritude qui le permet.
Il y a moi mes danses de mauvais nègre. À moi mes danses, la danse brise carcan, la danse saute prison, la danse, il est beau et bon et légitime d'être nègre. À moi mes danses, et saute le soleil sur la raquette de mes mains. Mais non, l'inégal soleil ne me suffit plus. Enroule-toi, vent, autour de ma nouvelle croissance. Pose-toi sur mes doigts mesurés. Je te livre ma conscience et son rythme de chair. Je te livre les feux où brasille ma faiblesse. Je te livre le chingant, je te livre le marais, je te livre l'île touriste du circuit triangulaire. Dévore, vent, je te livre mes paroles abruptes. Dévore et enroule-toi, et t'enroulant, embrasse-moi d'un plus vaste frisson. Embrasse-moi jusqu'où nous furieux, embrasse. Embrasse-nous, et nous ayant également mordus jusqu'au sang de notre sang. Mordus. Embrasse ma pureté, ne se lie qu'à ta pureté.
Voilà, c'était une première mise en contexte donc avec cet extrait d'une émission qui avait été produite par l'INA et le CNRS, donc qui était consacrée à Aimé Césaire. On a entendu donc un dialogue entre Léopold Sédar Senghor et Césaire, et puis un extrait d'une pièce de Césaire, donc la tragédie du roi Christophe, par le Théâtre National Sénégalais, Daniel Sorano. Et donc on va tout de suite, donc cette émission datait de 1977, je l'ai dit tout à l'heure, et on va tout de suite reprendre en fait notre rencontre avec Françoise Vergès qui avait lieu donc à Toulouse le 11 novembre 2008. Et là donc on est dans le dialogue avec le public et ça commence par la question des réparations.
Je pense qu'à propos des réparations, je suis juriste, réparation signifie bien entendu essayer de compenser un dommage qui a été causé. Et je suis plutôt d'accord avec Césaire. Je pense que c'est inestimable. C'est inestimable. Et d'autre part, à supposer qu'on puisse l'estimer, qui en sera le créancier ? À qui on va verser cela ? Et puis, il ne faut pas non plus se voiler la face. Je pense que chez nous, malheureusement, toute indemnité qui serait versée risque de revenir dans des banques occidentales. Voilà. Et je pense qu'on ne peut pas couler le bec à ceux qui se défendent en leur disant voilà, voilà, c'est tout ce que j'avais dit.
Il était profondément, moi je suis d'accord avec vous, parce que je pense que la réparation, elle est historique et politique, c'est-à-dire historique au sens, les histoires doivent changer, hein, les récits doivent changer, et ça, par exemple, pour l'Europe, c'est absolument incontournable. L'Europe doit changer son récit, doit changer aussi cette manière de se voir en guide du monde, en inventeur de la démocratie, en inventeur des grands principes universels, et qu'elle doit voir le crime qu'elle a en son cœur et qu'elle commence au XVIe siècle avec ça. Et ça, c'était absolument, pour moi, ça fait partie de la réparation, au sens d'une réparation historique. Ça doit se dire, ça doit être dit, ça doit être décortiqué. Ensuite, je pense que c'est des luttes politiques. Moi, je pense que c'est des luttes politiques pour changer les choses, pour changer les manières de faire. Et ça doit se faire autant en Afrique qu'en Europe, qu'aux Amériques. Voilà. Il faut sortir aussi justement nous de nos propres frontières et reconstruire un peu, par exemple, ce que les esclaves, quand vous avez Frédéric Douglas qui parle aux gens aussi en Angleterre ailleurs, reconstruire aussi ces mouvements transcontinentaux, des victimes, pourrait-on dire, des régimes prédateurs, de l'économie prédatrice. Et je pense que là, on ne peut pas, parce que si on continue nous-mêmes à dire l'Afrique, mais l'Afrique, c'est comme si c'était un tas. Vous voyez, c'était une chose, mais c'est un immense continent avec des milliers de cultures et de langues, avec des gens extrêmement différents les uns des autres. Et il faut nous-mêmes que nous soyons capables de différencier qui nous sommes pour que justement on ne nous mette pas dans cette espèce de tas. Sinon, on a le discours de Dakar. Et la réponse au discours de Dakar, c'est pas simplement de dire l'Afrique, c'est pas ça. Mais c'est de dire, moi je ne supporte même plus qu'on parle de l'Afrique comme ça. C'est pas possible, c'est d'une diversité, d'une richesse. Il faut aussi redire ça. La différence incroyable que vous avez entre l'Afrique du Sud, le Mozambique et le Kenya. Ça n'a strictement rien à voir. En paysage, en culture, en langue, en histoire, tout. Et redonner aussi la complexité, la richesse, la diversité de ce continent. On ne confond pas un Finlandais et un Espagnol. Alors, je veux dire qu'ils sont quand même peut-être presque plus proches que justement proche au sens de culture, hein, que des gens. Et ça, c'est une chose, je pense aussi, qui fait partie de, aujourd'hui, de la déconstruction de la, du monde tel qu'on nous l'a mis dans la tête, des cartes mentales qu'on nous a mis dans la tête, l'Afrique. Mais je sais même pas de quoi on parle, moi. Et ça, je pense, c'est la même chose, c'est de dire, et c'est cette manière aussi de ce que les historiens les indiens parlent en disant il faut provincialiser l'Europe, c'est-à-dire la remettre à sa place. Elle est une parmi d'autres, c'est tout. Elle est une région du monde parmi d'autres. C'est pas non plus de lui dire qu'elle n'existe plus, sinon elle va avoir une dépression, mais de lui dire bon qu'elle il faut qu'elle accepte. Elle accepte de l'incroyable complexité. Et la richesse, juste un tout petit mot, nous, je travaille là, un projet, un grand musée aérien, mais le fait, par exemple, de resituer l'histoire de l'océan Indien et de la sortir de la temporalité européenne et de dire qu'au 10e siècle, les flottes chinoises sont arrivées en Afrique, qu'il y avait des routes commerciales, qu'il y avait de grandes villes, qu'il y avait des routes... Quand on fait, par exemple, la liste des produits échangés, produits manufacturés, produits premiers, là. C'est incroyable. Ils connaissaient tout, la porcelaine, tout, ça circulait. Et ça, on voit qu'il y avait des routes sud-sud, il y a eu des échanges sud-sud, et on change notre cartographie du monde. Il n'y a pas que nord-sud, là. Parce que quand on continue comme ça, on continue à nourrir le narcissisme du nord. Mais il y a des, je sais pas, il y a des tas de gens... les échanges sud-sud ont toujours existé et continuent à exister aujourd'hui. Ils sont là, les diasporas indiennes en Afrique, les diasporas africaines en Inde qui commencent au XIVe siècle. Il y a de grandes diasporas africaines en Inde. Et on parle, je veux dire, ça aussi, ça, de transformer nos cartes mentales, de sortir de cette temporalité que nous a imposée l'Europe, et tout commence avec elle et tout finit avec elle, je pense que ça aussi, c'est un des enjeux de la décolonisation de nos esprits.
Dans le milieu la mer, que n'avait gros plan, si bateau longtemps, il y a où dans le fond, sous bateau longtemps, que n'avait pas noir, t'es comme les animaux, ça tu viens pas ici, ça tu baignes dans le sang. Je t'y viens par là, nana l'océan. Je t'y viens par ici, je t'y baille dans le sang. Je t'y viens par là, nana l'océan. Bam kalou bam, bam kalou bam, bam kalou bam, bam kalou bam. Bam kalou bam, bam kalou bam, bam kalou bam, bam kalou bam. Vie grand mouni di, dans le temps commandé, que n'avez vous qu'une noix, t'es chez notre frère. À force d'en souffrir, la poing, la colère, couler flamboyant, quand ça l'est en flair. Le sang l'a caillé, dessine le passé, Boubou l'a poussé, la peau corpétée. Le sang l'a caillé, dessine le passé, Boubou l'a poussé, la peau corpétée. Bam kalou bam, 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 bam kalou bam. Je t'y vois. Tu vas t'aller, mais ça prend l'avion pour quitter mon pays. appelle la Réunion. J'ai migré aujourd'hui, l'esclave à longtemps. Paris est joli, nous n'a plus un genre. J'ai migré aujourd'hui, l'esclave à longtemps. Paris est joli, nous n'a plus un genre. Vom calou, vom, vom calou, vom. Capturé côté Zotnepe, la pourrotte criait. Il s'appelle l'école, il s'appelle marron. Côté Zotnepe, la pourrotte criait. Il s'appelle l'école, il s'appelle marron. Bam calou bam.
C'était Daniel Waro et René Lacaille. Donc, on est toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, c'est les oreilles loin du front. Et on poursuit donc notre dossier avec cette rencontre avec Françoise Vergès qui avait lieu à Toulouse le 11 novembre 2008. Une rencontre autour d'Aimé Césaire. Et donc, on y a parlé beaucoup de l'histoire de l'esclavage, de la mémoire de l'esclavage et du colonialisme. Et on repart tout de suite dans la rencontre avec la question de l'écriture de l'histoire et des récits nationaux.
Parce qu'on a quand même des chefs d'État qui sont gênés par la question de l'esclavage. Oh. Il y en a qui ne veulent pas qu'on en parle, mais des chefs d'État africains.
Oui.
Alors, donc ça signifie peut-être que dans ces types de rencontres...
Ils ne veulent pas qu'on en parle parce que, oui, parce que justement, ils seraient confrontés à des questions aujourd'hui. Hein, de leur, je veux dire, ça pourrait faire écho avec des formes d'exploitation qu'ils encouragent ou qu'ils... Et puis, ça, je pense, si tu veux, c'est... C'est un réexamen de l'histoire même de ce continent qui est importante. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, elle est de plus en plus écrite par les gens du continent eux-mêmes. Hein. Et là, on est aussi dans une réécriture de cette histoire. Et une sortie aussi de récits nationaux qui ont eux-mêmes effacé des mémoires populaires, qui ont effacé les mémoires des résistances, les mémoires vernaculaires, parce qu'il fallait que ce, le récit national, un certain récit national, s'impose. Et qu'on ne nous parle pas, justement, de révolte, de paysans, d'ouvriers, de syndicalisme, parce qu'il fallait qu'on montre un peuple uni contre le colonialisme, etc. Et ça, c'est des récits qui sont en train aussi d'être travaillés. Je pense que ça, c'est vraiment important. De toute façon, c'est des confrontations de récits, des confrontations entre historiens, des confrontations d'archives. Et le récit, on le sait, n'est jamais complètement terminé. Même le récit national, je veux dire, il y a des archives qu'on lit différemment. On sait bien que jusqu'à encore, je ne sais pas, il y a 10-15 ans, Vichy, il y avait une manière d'en parler. Mm-hmm. Et c'est parce qu'il y a Paxton, ça nous est venu des États-Unis, un historien américain qui a écrit ce livre et qui a, hop, tout d'un coup, renouveau sur Vichy, on se réintéresse, quoi, comment, etc. Donc on voit bien que même il n'est jamais fixé un récit. À partir du moment où il est fixé, bon, ben voilà, je veux dire, on est chez Orwell, là, c'est plus un récit national. Mm-hmm. C'est que tout d'un coup, on va. Les questions changent, puisque les questions qu'on pose au passé, c'est les questions du présent. Donc nos questions sur le passé changent, parce que tout d'un coup, on s'intéresse à un aspect qu'on n'avait pas vu. Et donc ces questions, le passé, ils seront constamment réinterrogés. Donc là, aujourd'hui, il est réinterrogé à partir du colonial, de l'esclavage et du colonial. On dit, je veux dire, attendez, là, il y a eu un blanc, là, il faudrait, c'est le cas de le dire, et on va aller voir un peu ce qui se passe. Et voilà, tu vois. Et donc ça n'arrêtera jamais. Il y aura d'autres questions qui vont se poser et ça va se poursuivre.
Voilà, toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, les oreilles loin du front. On poursuit donc avec ce débat, cette rencontre, débat avec Françoise Vergès autour d'Aimé Césaire, des questions de mémoire et d'histoire de l'esclavage, du colonialisme. Je rappelle que Françoise Vergès est présidente du comité pour la mémoire de l'esclavage et qui est professeure d'histoire à l'Université de Londres. Et là, tout de suite, elle va évoquer en fait les luttes des abolitionnistes.
Et puis, il faut vraiment ne pas oublier que c'est une lutte qui a été très, très dure. C'est un courage. Les abolitionnistes ont été extrêmement courageux. Ils allaient vraiment à l'encontre de toutes les idées. Et il faut donc aussi se dire, il faut se souvenir de ce courage, du risque qu'on prend. C'est des gens, que ce soit blancs ou qu'ils étaient blancs ou noirs, mais certains, on leur parlait plus, ils perdaient leurs amis, ils perdaient leur travail. Il ne faut pas du tout s'imaginer que c'était tous des bourgeois et qu'ils étaient tranquilles. Il y a eu beaucoup, ils étaient attaqués, certains étaient lynchés, ils perdaient tout, ils étaient obligés de s'enfuir. C'était vraiment une lutte très très dure, une des grandes luttes, et moi je trouve ça dommage justement qu'on ne se souvienne pas de l'esprit qui a animé ces gens-là, qui ont été d'un courage extraordinaire. Et ce que je trouve, c'est justement de redonner cette dimension transcontinentale, cette dimension. Les femmes sont extrêmement importantes dans cette lutte. Les femmes, qu'elles soient blanches ou noires, elles vont vraiment, vraiment se positionner. Mais une chose aussi qui est intéressante quand même aussi, c'est que l'esclavage colonial a créé ce qu'on appelle la ligne de couleur. Et cette ligne de couleur, elle a traversé les mouvements progressistes. Les mouvements réactionnaires, laissons-les de côté, d'accord. Mais les mouvements progressistes, quand même. C'est-à-dire qu'on parle des Noirs, mais moi je dis toujours, il faut s'intéresser à comment on a fabriqué le blanc. Parce que le noir, après tout, tout le monde en parle, mais le blanc, c'est quoi? Pourquoi les gens se voient comme blancs? Qu'est-ce qui fait qu'on se voit comme blanc? Et qu'est-ce qui fait? Vous avez ce livre intéressant qui dit comment on a fait des Irlandais des blancs. Les Irlandais, quand ils arrivent aux États-Unis, on les jette dans les ghettos où il y a les Noirs. C'était à la fin de la guerre civile, donc les Noirs étaient montés du sud dans les villes du nord, et il y avait déjà les ghettos. Ils sont très maltraités, et on mettait pas de chiens, pas d'Irlandais. Par exemple, no dogs, no Irish. Et par exemple, quand on demande, il y avait du travail, on disait no Irish, no need to apply. C'est pas la peine de demander. Les Irlandais avaient une très très mauvaise réputation. Et à un moment donné, il commence à avoir une solidarité entre les Irlandais et les Noirs, contre la classe possédante, pour parler ainsi. Et alors là, danger absolu. Et du coup, on va faire des Irlandais des Blancs, et qu'ils restent exploités, et complètement exploités, mais ils ont quand même ce petit quelque chose qui les fait un petit peu plus que les Noirs. Et les premiers papogroms, on dit papogroms contre les Noirs, mais je ne trouve plus le mot, ça sera fait dans les ghettos, c'est les Irlandais qui le lanceront. Et en France, en 1848, Hubertine Auclert, grande féministe devant l'éternel, grande républicaine, opposante à Napoléon III, partisan évidemment du suffrage des femmes, tout ça. 1848, abolition de l'esclavage, les hommes affranchis reçoivent le droit de vote, comme le 13e amendement fera qu'on donne le droit de vote aux Noirs américains. Eh bien, elle dit, les femmes sont moins que des nègres, et elle écrit tout un texte en disant comment peut-on donner le droit de vote à des Noirs qui ne sont même pas civilisés, à des nègres, alors que nous, femmes blanches, sommes civilisées. Et ce texte, vous ne le voyez dans aucune histoire du féminisme français, et non, on n'en parle pas. Et Hubertine Auclert, il y a encore un livre récemment qui est sorti sur elle, parce que c'est une figure très importante, et c'est une femme très courageuse, très sincère, etc. Mais quand on est arrivé là, la ligne de couleur s'est mise en place, et elle s'est dit, ah non, c'est pas possible, alors non. Et on sent la force de cette frontière, même dans les mouvements. Et on le sait, dans le mouvement ouvrier, tu parlais par exemple, les mouvements ouvriers, la difficulté qu'ont eu les personnes pour faire connaître. Donc on voit... Et ça, il faut aussi se souvenir de ça. Se souvenir de ça, à quel point... Et ça s'est passé aussi après aux États-Unis, plus tard, dans le mouvement féministe, il y a eu aussi une séparation, parce que les féministes blanches n'ont pas supporté que les hommes noirs aient le droit de vote, et les femmes noires se sont alliées aux hommes noirs et ont dit aux féministes blanches, c'est insupportable. Et ça, c'est une séparation dont Angela Davis parlera
J'aimerais quand même saluer Olympe de Gouges, qui était une grande féministe française, mais qui a écrit un texte sur l'esclavage qui s'appelle Zamor et Mirza, où elle dénonce assez fort justement ce qu'on fait à ses amis noirs. Elle a, voilà.
Non, mais il y a eu des féministes, il y a eu des syndicalistes, il y a eu des hommes politiques qui se sont battus. Ce que je veux dire, c'est que quand même, l'esclavage colonial crée ce qu'on appelle la ligne de couleur et que ça va traverser la citoyenneté, que ça va traverser le féminisme, que ça va traverser quand même le syndicalisme. C'est-à-dire même dans des mouvements dont on aurait pu espérer que justement ils auraient porté des idées progressistes, quelque chose se met en place. Et on le voit dans les mouvements ouvriers aussi. C'est nous qui n'empêchons pas qu'il y ait des syndicalistes, absolument, qu'il y ait des féministes, qu'il y ait des hommes politiques et des femmes politiques qui soient...
Cela n'empêche pas effectivement la solidarité, parce qu'il y a une thèse là qui est en train d'être préparée d'ailleurs sur Bordeaux, où la fille essaie de montrer, les étudiantes essaient de montrer l'histoire du patchwork. Et ça, la thèse qu'elle défend, c'est que le patchwork a été le type de langage créé par les femmes pour aider justement à la fuite des esclaves. Donc, un tissu qui était fait avec des codes, et on pouvait savoir quand est-ce que le train pouvait passer, là où on pouvait passer, là où les lieux qu'il fallait éviter, les personnes qui pouvaient nous être d'une certaine solidarité, et apparemment, ce serait la naissance du patchwork entre des femmes blanches et des femmes noires. Donc, il n'empêche qu'il y a eu cette solidarité, mais... il faut le dire, cette ligne, elle a quand même traversé, jusque dans le discours d'ailleurs de Jules Ferry sur les Noirs.
Non, mais de toute façon, c'est ça les luttes. C'est pour ça que je trouve qu'il faut. C'est pour ça que c'est une histoire extrêmement intéressante et que l'histoire de la traite et l'esclavage est là, c'est ce que Césaire soulignait. Elle nous apprend beaucoup de choses. Elle nous apprend des choses contemporaines sur comment lutter, avec qui, comment. Elle nous apprend des choses. Elle nous apprend qu'on va trouver des personnes auxquelles on ne s'attendait pas, qui vont tout d'un coup se mettre à risquer, comme on a vu parfois avec les réseaux aujourd'hui de parents qui s'opposent à l'expulsion des parents d'élèves. On le voit, donc ça, ça révèle les vrais engagements. C'était vraiment des luttes qui mettaient vraiment des choses en cause. L'ordre établi, pour parler comme ça. Je veux dire, l'ordre établi disait que voilà, c'était comme ça, et c'était comme ça pour les siècles et les siècles à venir, qu'il n'y avait pas de raison de changer.
C'est Dieu Dagaze Kaila Bade Mondiem Dagaze Kaila Wowo. Gade zedie, tonne zedie, mdaka zekaila zweya, si bade mounye mdaka zekaila. Ndi zedie, d'agraze kaila. Si ba de mon Dieu m'agraze kaila. Oh oh oh, moi zedie, moi zedie. Dans des zedie, dans des zedie. M'davour gaze kaila, zoya. Ba de mon Dieu m'agraze kaila. Zedie, m'agraze kaila. Bade mon Dieu m'dagaze kaila. Seje m'dagaze kaila. Bade mon Dieu m'dagaze kaila. Oh seje, mwele seje. Tande seje, tomse seje. M'dagaze kaila asweya. Bade mon Dieu m'dagaze kaila. Seje, oh. Si ba de mon Dieu m'dagaze kaila, seje m'dagaze kaila. Si ba de mon Dieu m'dagaze kaila, oh lolo seje, m'amgan seje, ça fait mal seje. Seje, oh seje, m'avout gaze kaila asweya. Si ba de mon Dieu m'dagaze kaila asweya. Si ba de mon Dieu m'amgaze kaila, oh ba de mon Dieu m'dagaze kaila. Ah, oh, mon nom c'est Nicolas, oh, des mon nom c'est Nicolas, oh, des mon nom c'est Nicolas, oh, je des mon nom c'est le plaisir à belle. Des mon nom c'est Nicolas, oh, des mon nom c'est Nicolas, oh, des mon nom c'est Nicolas, oh, je des mon nom c'est le plaisir à belle. C'est Dieu. Ma kaze kaila, si ba de mon Dieu m'da kaze kaila. Mais c'est Dieu, ma kaze kaisa, si ba de mon Dieu m'da kaze kaila. Oh, oh lolo, gade se Dieu, gade se Dieu, kabe yo active. Ma kaze kaila asweya, si ba de mon Dieu m'da kaze kaila asweya.
Voilà, toujours sur Fréquence Paris Pluriel, c'était Manon Charlemagne, Les Oreilles Loin du Front. On repart donc en compagnie de Françoise Vergès lors de cette rencontre qui avait lieu au festival Origine Contrôlée à Toulouse, festival organisé par le Tactique Collectif. C'était le 11 novembre 2008.
Je pense aussi, si vous voulez, que vraiment, fortement, il y a une tradition française chez les historiens où l'histoire de France, c'est l'histoire de la France. Et voilà, c'est de la France, les rois, les reines, la République. Hein. Alors on a les rois, les reines, la Révolution, la République, Vichy maintenant, parce que ça fait quand même, enfin on en parle, la Première Guerre, la Deuxième Guerre. Mais regardez quand même la bataille pour ce film indigène. Et il a mis 5 ans à le faire, tout ça, etc. On a révélé les questions, c'était quoi, il y a 2 ans, 3 ans, alors que bon. Donc on voit, il y a une résistance. La France est un pays, un des pays, enfin bon, je vous dis ça, c'est parce que j'enseigne ailleurs, tout ça, le plus replié sur un tout petit territoire qui est le territoire de sa grandeur et de son identité. Et ça, c'est une mentalité. Je pense que les jeunes générations vont être différentes. Simplement, ces gens sont des mandarins. C'est des gens des positions de pouvoir encore beaucoup aujourd'hui. Dès qu'ils écrivent, ils sont dans les journaux, sur les médias, dans les télés. Donc, c'est eux qu'on entend. Mais les choses changent quand même. Je vous dis, hein, il y a des thèses. De plus en plus, il y a des jeunes historiens. Et vraiment, il y a tout un mouvement. Mais eux, pour l'instant, ils s'y opposent profondément. Ils n'ont pas supporté la loi Taubira. Ils ne l'ont pas supporté et ne supportent absolument pas. Alors l'histoire du crime contre l'humanité, ils disent que c'est en plus c'est anachronique complètement de dire ça. Alors quand on leur montre qu'il y avait des formules qui sont très proches de ça déjà chez Condorcet et Voltaire, ils n'écoutent pas. Enfin, ils ne veulent pas savoir. Il y a un point très négrière, esclavage, colonie. C'est encore un point aveugle dans la pensée française. Moi, j'avais vu, je le dis rapidement, là, parce que dans le dictionnaire de philosophie politique, grand dictionnaire, des gens très bien de Sciences Po, le terme est, à l'article esclavage, on vous dit, ça ne concerne plus la philosophie, ça a concerné, c'était une question pour les philosophes de l'Antiquité, aujourd'hui, ça ne nous concerne plus. Bon, ah bon, d'accord, ok, d'accord. Bon, colonie, ça n'existe pas. C'est-à-dire que ça n'existe pas, la colonie n'existe pas dans la pensée française. Dans la pensée, les philosophes qui vous parlent de citoyenneté sans fin, de république, il n'y a pas de colonie. Il n'y a pas non plus le discours de la race, comment le discours de la race a façonné quand même la pensée française. La mission civilisatrice, c'est quoi ? Rien, silence, radio. C'est quand même très, 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 très fort. C'est très fort. Et quand il y a eu le projet de Maison de l'Histoire, et on nous avait envoyé au comité le premier rapport, il n'y avait pas un mot sur traite négrière, esclavage, colonie. Alors j'ai quand même envoyé une lettre au rapporteur en lui disant, écoutez, vous avez l'intention, là, vous n'avez pas du tout en parlé, là, c'est Maison de l'Histoire de France, vous n'avez pas en parlé. Ah, j'avais oublié. Bon, d'accord, je ne sais pas, enfin, peut-être que quand même. Mais moi, j'ai souvent dit, les lieux de mémoire de Nora, il n'y a pas un chapitre là-dessus. Et même l'histoire des femmes de Georges Duby et Michel Perrault, qu'on ne peut pas soupçonner du tout d'être des réactionnaires, il n'y a pas un chapitre sur la femme esclave ou la femme colonisée. C'est, donc il y a ceux qui ne veulent pas et ceux, et le fait que c'est un point aveugle dans la pensée française.
L'esclavage, le colonialisme. Il y a eu, pendant toute cette période, un va-et-vient entre les fonctionnaires en France et dans les colonies. Je pense bien que vous avez des exemples où des fonctionnaires ayant vécu un certain temps dans les colonies sont revenus en France et que font-ils ? Ils mettent en application ce qui se faisait là-bas. Donc, ce va-et-vient-là, ce n'est pas innocent. On obtient ici ce qu'on a semé là-bas sans s'en rendre compte. Bien. Une question, une dernière question. Moi, je pense que le débat sur les réparations est lié à celui qui concerne la repentance. Le refus de repentance, du fait même que personne n'a demandé à qui que ce soit de se repentir. Quel est votre avis là-dessus ?
Oui, je pense, sur votre premier point, je pense que c'est très très important de signaler effectivement ce va-et-vient entre colonies et métropoles. C'est absolument fondamental. Vous savez que les premiers camps de concentration, ils sont testés par les Anglais sur les Boers en Afrique du Sud. C'est le premier moment où on a vraiment des barbelés autour, etc. Et on pousse les gens à la famine et on va les exterminer. Bon, même si les Boers après deviennent des horribles personnages, c'est pas une raison. Bon, et c'est vrai que ça, beaucoup de choses seront testées, beaucoup de choses. Et aujourd'hui encore, des choses sont testées. Aujourd'hui encore, hein. Par exemple à Mayotte, des politiques de rejet des illégaux sont testées pour voir comment ça va se passer, pour voir comment on va faire ici. Donc ça, ça continue. Donc vous avez tout à fait raison. Il y a vraiment, et Césaire le dit très très bien, c'est finalement ça reviendra. Et les projets du Lebensraum de Hitler, il a lu les projets coloniaux. Simplement, lui, il choisit d'aller vers la Russie parce qu'il trouve que c'est pas plus mal. Et donc, il choisit pas d'aller à l'étranger. Enfin, il choisit d'être sur le terrain européen. Alors, la question de la repentance, c'est absolument... Le mot apparaît déjà dans les débats en 98. Et c'est une formidable manœuvre de propagande. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Le mot, maintenant, vous ne pouvez pas aller dans un débat à la radio-télévision si on vous dit pas, mais alors, madame, vous voulez la repentance ? On n'a jamais prononcé ce terme, personne n'a jamais prononcé ce terme, mais ça y est, c'est passé. C'est passé. Alors vous perdez 10 minutes à expliquer que ce n'est pas ça que vous voulez, que c'est ça. Pendant ce temps-là, vous ne dites pas ce que vous avez à dire, et les autres vous disent pourquoi vous voulez repentance. Mais vous dites, mais on n'en veut pas, et ça leur permet, un, effectivement, de ne pas parler de ce dont il est question, des discriminations, des inégalités, du racisme. Mais on leur dit, mais nous, on veut pas, je veux dire, on se repent devant Dieu, alors nous, ça ne nous regarde pas. Hein, ça, si vous voulez aller vous repentir, repentez-vous. Mais c'est quand même pas ça la question. Mais ça, c'est une formidable manœuvre de propagande qui a quand même assez réussi, parce que le terme, il est passé maintenant dans le vocabulaire. n'y a pas un article, vous ne voyez pas ça. Je veux dire, c'est une très très bonne. Je veux dire, ça, et il faudra que nous, on développe la contre-propagande, pour parler comme ça, parce qu'ils ont vraiment réussi à faire passer. Et ça, je pense que c'est vraiment. Ça, c'est un gros enjeu. J'avais même. Bon, ça m'énervait tellement que je me suis dit, je vais écrire un petit pamphlet en disant contre la repentance, parce que j'en ai par-dessus la tête. Mais parce que vraiment, c'est insupportable. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous en. C'est le chewing-gum à votre, qui vous colle à la semelle, quoi. Vous ne pouvez pas vous en débarrasser. C'est vraiment un truc de propagande pour éviter de parler.
Voilà, toujours sur Fréquence Paris Pluriel, les oreilles loin du front. Et là, tout de suite, on va de nouveau entendre un extrait de cette émission coproduite par l'INA et le CNRS qui était consacrée à Aimé Césaire et qui date de 1977. On entendra donc la voix d'Aimé Césaire. Aimé Césaire qui évoque le colonialisme, les indépendances, entre autres.
Si on veut permettre à ce peuple de retrouver sa dignité, même de retrouver son langage, ben on ne peut le faire que par l'action politique. Mais à ce point de vue-là, il est enfin évident que nous sommes dans un pays colonial. Je crois que le monde a complètement oublié cela. L'Europe a l'impression que, bon, il a enterré le colonialisme, que c'est dépassé. Mais à la Martinique, c'est une réalité de tous les jours. Les termes sont différents, mais la situation est exactement la même. Nous sommes dans une situation coloniale. Le mot département, c'est tout simplement un alibi. C'est un camouflage. C'est un mot, un flatus vocis. Mais la réalité, elle, est coloniale. Il s'agit d'une hypocrisie. Alors, ou bien alors, on est dupe du vocabulaire officiel. D'ailleurs, que signifie le mot département? Le mot département signifie qu'il y a un tout homogène, et chaque partie, est un département. C'est le découpage d'un tout homogène. Ben, il est fait évident que la Martinique, la Guadeloupe, et la Guyane et la France n'appartiennent pas au même tout. Il s'agit d'entités, de petites entités qui sont absolument spécifiques et absolument autonomes. Je crois que le problème essentiel, c'est essayer de rétablir l'homme martiniquais dans sa vérité, dans son authenticité, pour employer un mot qui malheureusement prend de singulières résonances ailleurs, permettre enfin l'avènement de l'homme martiniquais. Et si nous voulons l'épanouissement de l'homme martiniquais, il faut un changement de statut. Il faut créer des conditions objectives qui permettent cet épanouissement.
L'indépendance.
Bien sûr, Sarah, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut poser le problème. Et un mot d'ordre politique n'est pas, n'est pas simplement d'un désir, d'une aspiration. Il faut que ce mot d'ordre, que ce mot d'ordre politique, car un mot d'ordre politique est avant tout un mot d'ordre collectif. Il ne vient pas d'une impatience, je ne sais quelle impatience petite bourgeoise, mais il doit être le résumé d'une aspiration collective. Voici comment je l'entends. Or, je considère que, à l'heure actuelle, il n'y a aucune aspiration de ce genre dans le peuple martiniquais. Pour ma part, ce serait déjà beaucoup, à mon avis, si on permettait au peuple martiniquais de se dégager du statut dans lequel il est à l'heure actuelle et de prendre en main, même en partie, son propre destin. Le statut qui correspond le mieux à la spécificité antillaise, qui correspond le mieux à nos traditions, qui permet d'unir à la fois, de réconcilier à la fois nos besoins et nos possibilités, ben, c'est un statut d'autonomie. La politique et la culture, c'est deux faces d'une même réalité, et que c'est un seul et même combat, qui est un combat pour la libération de l'homme. Je crois qu'il faut affranchir l'homme de la bêtise, de la stupidité, de l'ignorance, bien sûr, de l'oppression, de la faim, de l'esclavage. Et je parle de toutes les formes d'esclavage, de toutes les formes de servitude, et pas seulement les servitudes physiques, toutes.
Voilà, on retourne dans les oreilles loin du front pour terminer dans le débat, la rencontre débat qui avait lieu à Toulouse lors du festival Origine Contrôlée avec Françoise Vergès. Et donc, s'il reste encore beaucoup de travail aux historiens, mais pas seulement, hein, parce que c'est un travail, au niveau historique, mais pas uniquement. Eh bien, les choses avancent tout de même depuis quelques années.
Alors les choses ont commencé, je pense déjà par exemple le fait qu'on ait le 10 mai, que ce soit une journée nationale de commémoration des mémoires de la traite négrière, de l'esclavage et de la pollution, que les choses se passent, que les associations s'en saisissent, que les associations doivent pousser les mairies, parce que quand même le gouvernement a fait un décret en disant que ce jour-là, il doit se passer quelque chose. Donc on peut dire, attendez, là moi je sors le décret. Donc c'est par des mouvements comme ça, il y a des choses, je veux dire il y a 15 ans, il y avait même pas le quart de ça, hein. Bon, alors donc il faut aussi voir le chemin parcouru. Je pense qu'il y a des choses, il y a des académies qui ont fait des choses et dont on peut s'inspirer. L'Académie de Basse-Normandie a fait des choses formidables sur ces questions avec des programmes. Nous on pousse à ce que l'éducation nationale fasse des choses. On a énormément poussé à la recherche parce que sans recherche, il n'y a pas d'éducation. C'est la recherche qui va ensuite nourrir les manuels scolaires et les programmes scolaires. Il y a aussi ce que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'en fait, il faut aussi sortir. Je veux dire, moi, je suis pour que la traite, l'esclavage ou la colonisation soit apprise dans d'autres disciplines que la discipline de l'histoire. Je vous dis, par exemple, pour moi, par la littérature, par la poésie, énormément de choses peuvent passer, par l'art, par la géographie, par des tas de... Je veux dire, et pour montrer la musique, l'enseignement de la musique, de faire percevoir, de montrer les instruments de musique, de montrer comment les instruments de musique ont circulé de Madagascar au Mozambique au Brésil. C'est vraiment de par la musique, des musiques qu'on entend ensuite à la radio. Et là, tout d'un coup, les choses deviennent présentes. C'est pas des espèces de trucs un peu lointains. Mon Dieu, ça nous concerne. Bon, ça, c'est vraiment comme au Moyen-Âge pour les enfants. C'est de montrer aussi à des jeunes aujourd'hui que ce monde-là, c'est le leur. Et qu'ils peuvent être fiers aussi de ce que leur ont légué ceux qui ont résisté. Parce que c'est ce que dit Césaire, ceux qui n'ont inventé ni la boussole, ni la vapeur, mais sans qui la terre ne serait pas la terre. Et je pense que c'est ça qu'on doit se dire. C'est que sans toutes ces personnes, la terre ne serait pas la terre. Donc ce n'est pas le monde des puissants, ce n'est pas le monde de ceux qui écrasent, c'est aussi le monde de ceux qui résistent et qui justement... Et toutes ces personnes qui sont mortes sans sépulture et sans nom et qui nous ont tout légué, des musiques, des langues, des littératures, des poésies... et des idéaux, l'aspiration à la liberté, à l'égalité, et qu'ils nous ont montré chaque fois qu'il fallait se battre.
Voilà, donc c'était Françoise Vergès, c'était une rencontre qui s'est tenue à Toulouse lors du festival Origine Contrôlée, qui est organisée par le Tactique Collectif, c'était le 11 novembre 2008, donc c'était une rencontre autour notamment d'Aimé Césaire, puisque Françoise Vergès, qui est présidente du Comité pour la mémoire de l'esclavage et professeure d'histoire à l'Université de Londres, a publié un livre d'entretien avec Aimé Césaire qui s'intitule « Nègre je suis, nègre je resterai », un livre qui est publié aux éditions Albin Michel, publié en 2005. Et puis, je rappelle que si vous voulez voir Françoise Vergès en vrai, vous aurez cette occasion-là si vous êtes sur Paris. Jeudi 2 avril, à partir de 19h, pour une rencontre donc, autour de la situation politique aux Antilles et à La Réunion. Et sans doute qu'elle y évoquera aussi Aimé Césaire. Donc, cette rencontre aura lieu à La Friche, la librairie La Friche, qui est au 36 rue Léon Frot, dans le 11e métro Charonne. Et voilà, l'émission va pas tarder à se terminer.
On approche, Chico. Attention, enclenche les rétrofusées.
Et voilà, ainsi s'achève une nouvelle édition des Oreilles Loin du Front qui nous a emmenés dans les coulisses de l'histoire et de la fabrique de la mémoire, de l'histoire de controverses photographiques à celle du colonialisme et de l'esclavage, de la fabrique de la négritude à la fabrique du blanc. C'était une émission entièrement concoctée et réalisée par Alexandrine, la reine de la résistance, de la régie, du son et du micro. Vous pouvez d'ores et déjà réécouter la première partie de l'émission sur www.loldf.com et l'émission sera rediffusée dans son intégralité vendredi prochain de 8h30 à 10h sur les ondes de fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. On vous laisse maintenant avec Claudia et ses échos du Capricorne. Petite rectification, vous pouvez réécouter la première partie de l'émission sur www.loldf.org et non pas .com. Voilà, merci.